Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à bord de Mondial Sport ce soir. Notre tour d'Europe en ballon rond s'arrête en Angleterre avec Philippe Auclair pour évoquer la claque reçue par le Chelsea d'Edouard Mendy. L'Espagne aussi avec cette question. Quelle mouche a donc piqué Casemiro, pilier de la Maison Blanche madrilène, parti s'engager dans la galère mancunienne? Le bilan des championnats européens multisports à Munich et l'émergence de Petit Bleu à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, la génération 2024 pointe déjà le bout de son nez. Quel avenir pour les sportifs russes? Un peu moins de 6 mois après le déclenchement du conflit en Ukraine et les premières sanctions contre leur pays, les athlètes sont au repos forcé et forcément ça pose des questions. Pour y répondre, Lucas Aubin, chercheur spécialiste de la Russie et de sa politique sportive. On reviendra sur la victoire forte en symbole du boxeur ukrainien Alexander Usyk hier dans son combat des chefs face au Britannique Anthony Joshua, et nous ferons enfin un tour de bateau en Bénin. Au Bénin, plutôt, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mondial Sport avec Fabrice Viollet aux commandes, c'est parti. Et c'est même très bien parti pour le PSG cette saison. 3e journée de Ligue 1, 3e victoire pour les Parisiens ce soir. 7-1 sur le terrain de Lille dans ce match entre les deux derniers champions de France. Un but pour Messi, un pour Hakimi, 2 pour Neymar et 3 pour Kylian Mbappé, le premier après seulement 8 secondes de jeu, but le plus rapide de l'histoire du championnat de France. Autre carton, celui réussi en Allemagne par le Bayern Munich, 7-0 sur la pelouse de Bochum avec un doublé de Sadio Mané, le Sénégalais déjà bien intégré dans la mécanique bavaroise. Sadio Mané, il va falloir s'y faire, dont on ne parlera plus dans notre rubrique Première Ligue avec un homme qui, lui, pour le coup, ne bouge pas, bien ancré sur son île. Bonsoir Philippe Auclair.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous et à toutes.
Alors, il y a eu des surprises aujourd'hui. Commençons peut-être par Chelsea. C'est la claque du jour. Chelsea giflé par Leeds, 3-0.
Oui, et on a pu entendre Thomas Tuchel après la rencontre dire que Chelsea avait été la meilleure équipe dans ce match. Je pense que c'est une opinion que très peu d'autres observateurs partageront. Chelsea s'est fait prendre à la gorge par une équipe de Leeds extrêmement entreprenante. Rappelons quand même que c'est une équipe de Leeds qui n'a ni Patrick Bamford, ni Calvin Phillips, ni Rafinha, donc qui a priori commence sa saison, on va dire, beaucoup moins forte que comme elle a terminé la précédente. Mais malgré tout, on n'a pas vu du côté de Chelsea la réaction que l'on pouvait attendre peut-être de ce qui reste l'un des favoris pour une place en top 4, voire pour le titre. Le score final de 3-0 n'est en rien flatteur pour Leeds United. Alors certes, on va revenir bien évidemment sur la bourde de Edouard Mendy. Mais Edouard Mendy, il fait ce que son entraîneur lui dit de faire, à savoir de relancer depuis sa ligne de but. Il a pris des risques inconsidérés, il a été puni, mais on aurait pu s'attendre à ce que son équipe de Chelsea réagisse.
C'est grave. Alors, docteur,
on va dire que ça va un petit peu dépendre de la façon dont la fin du mercato se passe pour eux. Ils ont fait des choix forts, ils ont fait le choix de se séparer de Romelu Lukaku, n'oublions pas, qui est reparti à l'Inter. Ils ont fait venir Raheem Sterling. On n'a pas vraiment beaucoup d'idées sur d'autres joueurs qui pourraient arriver. Certes, on parle d'Aubameyang, on parle de Maguire. Je ne suis pas absolument certain que ce soit les joueurs dont Chelsea ait totalement besoin en ce moment, mais la performance aujourd'hui, très honnêtement, Thomas, n'était pas à la hauteur. Et du coup, il faut quand même voir que Chelsea, après 3 journées de championnat, se retrouve à la 12e place avec 4 points. Ce n'est pas vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre au début de cette première ligue.
Mais la défaite n'était pas loin non plus aujourd'hui pour Manchester City dans le duel des pétroclubs avec Newcastle. 3-3.
Oui, 3-3 et la balle au centre entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Un match au passage absolument échevelé. Une équipe de Manchester City qui a été malmenée, mais qui a encore une fois montré sa capacité de revenir. On va parler bien évidemment du rôle de Erling Haaland. Comment faire autrement, puisque c'est lui qui marque le but du 3-2. Il intervient dans quasiment toutes les phases dangereuses de son équipe. Mais Newcastle confirme avoir passé un cap, évidemment avec des investissements qu'ils ont consentis grâce à l'arrivée du fonds souverain saoudien, ça se comprend un petit peu. Et donc un match complètement échevelé qui a laissé, je pense, les supporters, les spectateurs absolument ravis. Par contre, le score ne satisfera certainement pas Pep Guardiola, qui, j'imagine, espérait repartir de St. James Park avec plus qu'un seul point.
L'une des autres confirmations du week-end, c'est le départ canon des Gunners d'Arsenal.
Victoire 3-0 à Bournemouth. Est-ce que c'est si surprenant que cela? Non, dans la mesure, Bournemouth est un promu fragile. Dans la manière, par contre, et la domination et l'assurance qu'ont montré Arsenal, c'est plus inattendu. Ils ont pris leur adversaire à la gorge d'entrée de jeu, un doublé de Martin Odegaard. Gabriel Jesus est un slant, on peut le dire, dans son rôle de numéro 9 avec Arsenal. Et puis, on doit signaler également un but somptueux de William Saliba. Bon, il impressionne depuis son retour à Arsenal. J'ai son retour, en fait, il avait toujours été prêté à des clubs de Ligue 1. Son arrivée presque à Arsenal, mais il a été encore une fois absolument magnifique. Et très honnêtement, cette équipe d'Arsenal, elle est en tête du championnat d'Angleterre, au mérite. Elle montre de très belles choses en attaque, ça on le savait. Elle montre de la constance, ce qu'elle n'avait pas la saison précédente. Elle montre beaucoup plus de solidité dans son organisation défensive. Et cela, c'est dû en partie justement à l'arrivée de William Saliba et aussi de Zinchenko de Manchester City, qui a été absolument remarquable au poste de l'arrière gauche. Une équipe d'Arsenal qui séduit et qui commence maintenant, je pense, véritablement à confirmer tout le bien qu'on pensait d'elle après une pré-saison réussie.
On dispute seulement la troisième journée, Philippe, et c'est déjà l'alerte rouge pour Manchester United, qui joue gros demain face à Liverpool. On a l'impression que ce soit en interne ou sur le terrain qu'il y a comme un grand bazar dans ce club.
Trouver de la logique dans ce que fait Manchester United en ce moment, c'est très compliqué. Au niveau du recrutement, on a vu le type de cible qu'il s'était trouvé cet été, comme Arnautovic ou Rabiot, très honnêtement, je veux dire, on a du mal à comprendre. Énormément de problèmes en interne. L'atmosphère dans le vestiaire est épouvantable. On dit qu'Eric Ten Hag va mettre Harry Maguire et Cristiano Ronaldo à l'écart pour cette rencontre, voire s'en débarrasser avant la fermeture du marché des transferts. Au passage, Thomas, la question, c'est qu'on attend des manifestations de la part des supporters de Manchester United contre les propriétaires du club, la famille Glazer, et on se demande si on va assister à une répétition de ce que l'on avait vu, souvenez-vous, ces fameuses images des supporters envahissant Old Trafford avant la venue de Liverpool et qui avait causé le report de la rencontre. Au cas où ça se passerait, d'ailleurs, Jürgen Klopp s'est déjà exprimé à ce sujet. Il a dit, si jamais il y a un report du match, c'est scandaleux, nous voulons les 3 points.
Ouais, merci Philippe Auclair, bonne soirée. Un qui, en vous écoutant, doit se demander dans quelle galère il s'engage, c'est Casemiro, le milieu de terrain brésilien, l'un des cadres historiques du Real Madrid, transféré donc à Manchester United, un transfert à 80 millions d'euros. Transfert étonnant, Pierre Chaperon, et pourtant.
Cela devient une habitude pour Carlo Ancelotti. Quand l'entraîneur italien remporte la Ligue des Champions avec le Real, il perd l'été suivant son milieu défensif titulaire. Après Xabi Alonso en 2014, parti au Bayern, c'est Casemiro qui a fait ses valises pour Manchester United. Alors forcément, Ancelotti, vendredi, à quelques heures de l'officialisation de la transaction, était légèrement agacé par ce changement de dernière minute, même si, comme souvent, il maniait la diplomatie avec brio.
Le plan du Real Madrid, c'est de lutter, de batailler dans toutes les compétitions, et nous le ferons avec ou sans Casemiro. Cela dit, tout le monde reconnaît l'importance qu'a ce joueur.
Un départ qui prend sa source au début de l'été, 9 ans que Casemiro est au Real, 18 titres remportés dont 5 Ligues des Champions. Le Brésilien estime alors avoir fait le tour de la question, comme il le confie à ce moment-là à certains de ses coéquipiers. Volonté de changement, de connaître un nouveau défi après tant d'années de succès. Direction donc Manchester United, dernier de la Premier League, où il va toucher entre 12 et 13 millions d'euros de salaire, le double de ce qu'il perçoit à Madrid. Un choix particulier selon Juanma Sanchez, journaliste pour la Radio Nationale Espagnole.
C'est une surprise. C'est bizarre que Casemiro dise oui à Manchester United alors qu'il est dans un Real Madrid qui vient de gagner une autre Ligue des Champions. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une offre pour lui et personne ne s'attendait à ce qu'il accepte l'offre de Manchester United. On avait entendu parler du PSG ou d'autres clubs et lui avait refusé. Et en plus, Manchester United se trouve en ce moment même dans une situation délicate. L'équipe ne joue pas la Ligue des Champions.
Quoi qu'il en soit, le départ de Casemiro donne une opportunité en or aux deux milieux de terrain français. Dans un premier temps, Eduardo Camavinga, révélé à ce poste à Rennes il y a quelques années, et surtout Aurélien Tchouaméni. Si les dirigeants du Real espéraient faire une transition en douceur entre Casemiro et le français, le changement est arrivé plus vite que prévu pour celui qui a posé ses valises en juin dernier dans la capitale espagnole pour 80 millions d'euros. Un cours accéléré pour le français qui n'a joué aucun match de phase de poule de Ligue des Champions. Selon le journaliste de Marca, Mario Cortegana, le joueur a pourtant toutes les cartes en main pour s'imposer à ce poste.
Je crois qu'il va avoir quelques minutes, mais tout ça, ça va accélérer les choses. Et il va jouer beaucoup plus et en même temps avoir plus de pression. Je crois que quand le Real Madrid décide de payer 80 millions d'euros pour quelqu'un qui n'est encore qu'à Monaco, avec l'âge qu'il a, c'est que la direction a étudié plein de paramètres qui leur laissent penser qu'il est préparé pour affronter ce défi. À Almeria, pour la première journée, il n'a pas fait son meilleur match, mais je crois que c'était quelque peu circonstanciel. En France, le meilleur exemple, c'est Zidane. Ici, il a été sifflé pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'on se rende compte de son niveau de football.
Contre le Celta Vigo, pour sa deuxième titularisation de suite en Liga, Tchouaméni a redressé la barre. Une bonne prestation reconnue par la presse espagnole qui attend énormément du français, mais aussi et surtout son entraîneur Carlo Ancelotti.
Aujourd'hui, il a très bien joué. Il a montré ce qu'il fait habituellement à l'entraînement. Il a joué avec personnalité, il a très bien défendu et il a profité du travail du reste de l'équipe.
Le Real Madrid et Carlo Ancelotti comptent beaucoup sur le français pour pallier ce départ surprise de Casemiro. La preuve, le club madrilène déclare à tous les médias qu'il ne fera pas de nouveaux transferts cet été pour remplacer le Brésilien. Pour Ancelotti, le défi est de taille. En 2014, quand il avait perdu Xabi Alonso, le Real avait totalement raté sa deuxième partie de saison et l'Italien avait terminé viré par le club, sûr qu'il ne veut pas connaître une nouvelle mésaventure de ce genre. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et pour être complet sur la Liga espagnole, deux résultats importants de la deuxième journée aujourd'hui, la victoire 2-0 de Villarreal sur le terrain de l'Atlético de Madrid et le Barça bien parti pour gagner sur la pelouse de la Real Sociedad. 10 minutes à jouer, 4-1 pour les Catalans, doublé de Lewandowski, but de Dembélé et d'Ansu Fati. Les championnats européens multisports se sont achevés aujourd'hui à Munich, en Allemagne, sur un bilan correct pour le clan français. 50 médailles tout rond, dont 11 titres et des sportifs souvent jeunes récompensés. L'émergence d'une génération formée pour briller à la maison, à Paris, dans 2 ans pour les Jeux Olympiques. Une génération 2024, en quelque sorte, auscultée par Cédric de Oliveira.
C'était l'un des derniers espoirs de médaille pour la France. Le relais 4x100 mètres messieurs a décroché l'argent dans la fureur de l'Olympiastadion de Munich. Pour ses premiers championnats d'Europe, Pablo Mateo rentrera donc en France récompensé.
Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. J'ai une équipe incroyable avec moi. Aujourd'hui, on fait un super chrono et on fait une très belle médaille. Je suis super heureux, franchement.
Pablo Mateo a 21 ans, sprinteur prometteur. Il incarne en partie la jeune garde de l'athlétisme français, fortement représentée à Munich. Sur les 99 sportifs envoyés par la Fédération française, ils sont près d'une soixantaine à faire partie de la génération 2024, capable de décrocher des podiums lors des Jeux de Paris. Plus tôt dans la semaine, il nous expliquait à quel point il était déjà tourné vers l'événement.
Forcément, je pense que pour tout athlète français, on attend tous Paris. C'est l'événement le plus important de l'athlète français. Les derniers, je crois, c'était en 1924, c'est ça? Et donc là, on les a en 2024, 100 ans après. Tout le monde les attend et tout le monde a envie de participer aux JO chez nous.
Impatience palpable pour les sportifs français. Le grimpeur Sam Avezou était aussi présent à Munich. Médaille d'argent en bloc, une épreuve d'escalade. Il fait aussi partie des profils ciblés par sa fédération pour briller à Paris.
Bah ouais, il n'y aura sûrement pas de compète plus importante. Ce sera chez nous quand même. Donc, dans toute une vie, ça, les JO à la maison, c'est quand même... La plupart des sportifs aimeraient bien l'avoir. Donc. C'est sûr que ça va être une grosse compète.
Un euphémisme, cette grosse compète, ces Jeux Olympiques que les vingtenaires ont ciblés. Comme Avezou, le nageur Maxime Grousset, la lutteuse Kumba Larocque font partie de cette génération 2024. Tout comme le spécialiste des haies Sacha Zoya et son alter ego chez les dames Sirena Samba Mayela. Championne du monde en salle cet hiver, elle n'a pris que la 7e place du 100 mètres haies à Munich. Elle qui se sait pourtant attendue depuis longtemps.
C'est plus une source de motivation. Moi, c'est vrai que ça aurait été un programme que j'aurais connu dès que je suis rentrée dans l'athlé. donc assez tardivement. Et bon, on m'a directement présenté la génération 2024 et tout. Mais moi, je trouve que justement, c'est encore plus encourageant, voilà, pour dire, voilà, c'est vous les jeunes, on compte sur vous.
Du côté de l'encadrement, on a bien conscience que la pression peut parfois être trop lourde sur les épaules des athlètes. Richard Cursas est l'entraîneur des relais 4x100 mètres. Il s'occupe notamment de Pablo Mateo et il espère surtout que cette génération saura transformer cette pression positivement.
On voit bien, hein, les Allemands aujourd'hui, les championnats d'Europe, c'est chez eux. On voit l'engouement qu'il y a sur le stade. On a connu les championnats du monde à Paris 2003. Donc il faut s'en servir. Ouais. Ça ne peut pas être quelque chose qui rajoute une pression supplémentaire. Encore une fois, ça doit être de l'excitation quoi, pour eux.
Et les jeunes Français ont encore du travail. Ils vont devoir digérer ces championnats d'Europe. Pour les membres de l'équipe de France d'athlétisme, la route vers Paris passe maintenant par les mondiaux de Budapest l'été prochain. Cédric de Oliveira, Munich, RFI.
Et ce seront peut-être les grands absents des prochains Jeux Olympiques. Ce sont déjà les absents de ces championnats européens. Les sportifs russes qui avaient dominé le tableau des médailles il y a 4 ans à Glasgow n'étaient pas invités cette année, mis au banc en réponse au conflit mené par leur pays en Ukraine depuis bientôt 6 mois. Alors que deviennent-ils? Comment s'occupent-ils? Pour quelles compétitions? Quels objectifs peuvent-ils se préparer? C'est la première question posée à Lucas Aubin, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la Russie et des questions liées au sport et à la géopolitique.
Comme depuis fin février dernier, en réalité, hein, le sport russe cherche une alternative, les sportifs russes également. Pour le moment, le sport russe globalement est en stand-by, c'est-à-dire que les athlètes concourent entre eux à travers des compétitions construites à l'échelle nationale, voire international avec certains pays alliés, donc ça peut être la Biélorussie ou l'Arménie par exemple, mais c'est relativement rare. Donc pour le moment, on est sur des compétitions qu'on appelle pan-russes, c'est-à-dire au sein de la Fédération de Russie. Et l'objectif pour le pouvoir russe, c'est de donner l'illusion finalement aux athlètes que le modèle sportif russe n'est pas tant touché que cela, alors que la réalité est évidemment tout autre.
Vous parlez d'illusion, c'est ça. Les sportifs russes ne peuvent plus se mesurer aux grands sportifs internationaux. Forcément, se pose la question de l'intérêt des compétitions auxquelles ils participent et puis de leur progression aussi.
Bah, tout à fait, parce que fonctionner en autarcie, ça ne peut permettre finalement aux athlètes de progresser. Si on ne se mesure pas aux meilleurs athlètes internationaux, évidemment, le niveau à l'échelle nationale en pâtit. Et il y a fort à parier pour que, à la fin de cette mise au banc, finalement, le sport russe voit son niveau baisser. Après, c'est très difficile finalement de tirer des conclusions hein, sur le futur du sport russe actuellement, puisque déjà en interne en Russie, ça discute beaucoup. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés. Il y en a un qui est le plus probable, hein, a priori, c'est de préparer un retour du sport russe dans la communauté sportive internationale. Il y en a un deuxième qui dit que finalement, il faudrait revenir à un modèle soviétique du sport, à savoir un modèle complètement autarcique, justement, où les athlètes ne s'entraîneraient qu'entre eux pour finalement peut-être parfois réussir à participer à des grandes compétitions internationales. Et enfin, le troisième scénario, c'est le scénario, je dirais, rêvé par le président Vladimir Poutine, mais qui a peu de chances d'aboutir, c'est le scénario de la construction d'un nouvel ordre mondial du sport avec d'autres nations finalement sportives qui s'uniraient ensemble pour contrebalancer le modèle sportif occidental. Et donc, Vladimir Poutine rêverait de s'associer, par exemple, à la Chine, aux pays sud-américains, ou en tout cas à ses alliés, hein, pour construire un nouveau modèle sportif. Évidemment, ça paraît très peu probable, surtout quand on sait, par exemple, que la Chine, étant un ténor du sport mondial, la Chine a vocation à régner sur le sport international et pas simplement sur un autre ordre sportif mondial.
Le premier scénario que vous aviez évoqué, la préparation d'un retour à la normale, on est d'accord, il n'est possible que dans le cas d'un arrêt des combats en Ukraine actuellement.
Oui, actuellement, l'inverse serait vraiment très étonnant. Les grandes institutions du sport mondial ont appelé hein, à l'exclusion de la Russie tant qu'elle serait en guerre, tant qu'elle continuerait cette invasion. Pour le moment, il n'y a pas de signaux qui montrent que la Russie se retirerait de l'Ukraine. Donc, on peut tout à fait imaginer finalement que cette exclusion dure encore 6 mois, 1 an, voire plus selon la durée de cette guerre. À un moment donné, il faudra bien réintégrer la Russie. La question c'est quand, la question c'est comment. Ça paraît difficile tout de suite à l'heure où les esprits sont encore très échauffés de voir les confrontations entre des athlètes russes et des athlètes ukrainiens par exemple, ou des athlètes plus largement occidentaux.
On y était beaucoup moins habitué avant le déclenchement de ce conflit, mais
du côté ukrainien. Désormais, on utilise aussi le sport dans cette guerre de l'information et on l'a remarqué récemment aux championnats européens, encore plus hier soir, la nuit dernière, avec le combat des poids lourds entre le boxeur Alexandre Usyk, qui a remporté son combat d'échec face au Britannique Anthony Joshua et qui a été évidemment très démonstratif, qui a énormément fait référence à son pays et au combat qu'il mène aujourd'hui.
Oui, tout à fait. D'une part, il s'est habillé en cosaque. Il avait la coiffe cosaque. Évidemment, ce n'était pas anodin, puisque il faut savoir que la culture cosaque, l'histoire cosaque, renvoie à une histoire commune entre la Russie et l'Ukraine. Et quelque part, en se revendiquant de cette culture cosaque, il revendique finalement une forme de prééminence ukrainienne sur cette culture. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il a chanté la veille du combat, hein, un chant patriotique ukrainien qui était utilisé notamment durant la Première Guerre mondiale et qui est régulièrement utilisé sur les champs de bataille actuellement à l'est de l'Ukraine. Et donc, il avait véritablement vocation à utiliser l'événement sportif pour faire valoir les intérêts de l'Ukraine à l'échelle internationale. Et jusqu'à présent, effectivement, on avait plutôt l'habitude de voir la Russie le faire. Et on a la sensation que depuis quelques mois, mais aussi depuis quelques années, ce n'est pas une première pour l'Ukraine, ça s'est accentué et que le sport est devenu véritablement pour le régime de Zelensky un instrument privilégié. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky n'a pas manqué de féliciter le boxeur dans la foulée de sa victoire hier soir.
Merci Lucas Aubin, bonne soirée. On conseille en passant vos deux livres, La Sportokratura sous Vladimir Poutine dans toutes les bonnes librairies et Géopolitique de la Russie qui doit paraître le 8 septembre prochain aux éditions La Découverte. Mais tout de suite, on reparle de ce combat fort en symbole hier à Jeddah, Alexander Usyk, Anthony Joshua, la revanche. Et comme l'an passé, l'Ukrainien s'est imposé aux dépens du Britannique. Il conserve ses ceintures WBA, WBO, IBF des poids lourds. Mission accomplie pour celui qui boxe aujourd'hui pour tout un pays, Martin Guess.
Après l'habit traditionnel cosaque, après les chants de son pays, voilà Alexander Usyk en short au moment de monter sur le ring. Un short aux couleurs de l'Ukraine, les couleurs de la liberté selon l'inscription qui s'affiche aussi sur de nombreux t-shirts dans le public. Le boxeur de 35 ans, épaisse moustache blonde et mèche guerrière sur le crâne, est en mission et a de quoi faire peur. Engagé volontaire dès le début du conflit en Ukraine, il se bat cette fois-ci sur le ring et avait reçu les encouragements de son président Volodymyr Zelensky avant la rencontre.
Restons unis, soutenons-nous les uns et les autres. Battons-nous pour notre peuple et réjouissons-nous pour ceux qui portent haut les couleurs de l'Ukraine, comme le fait Usyk. Tous derrière notre gars.
Tous derrière Usyk, celui que l'on surnomme le chat s'est battu comme un lion. Le colosse, 1m91 pour 100 kg, rend tout de même 11 kg à Joshua, mais l'emporte finalement sur décision partagée, ce qui prolonge son règne sans partage sur les trois ceintures qu'il ramène en Ukraine.
Au 8e round, j'ai l'impression qu'il se voyait déjà vainqueur. Alors je me suis dit, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Il y avait de trop gros enjeux. Les ceintures rentrent en Ukraine. Nous avons gagné. L'Ukraine a gagné.
And still the unified heavyweight champion of the world from Ukraine, Alexander.
Une victoire en porte-étendard et une troisième défaite en 25 combats pour Joshua. La deuxième face à Usyk, le Britannique battu par le natif de Simferopol et très abattu.
C'est très difficile pour moi de me dire que je suis fier de moi, je ne ressens rien, je suis juste... je suis juste bouleversé vraiment au plus profond de mon cœur. Mais n'oublions pas le champion Alexandre Usyk qui a réalisé une performance phénoménale. Félicitations à lui. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit sur le ring. C'était sous le coup de l'émotion. Je veux juste lui dire merci d'avoir pris part à ce grand combat historique.
Un combat historique qui en appelle d'autres. Il ne manque désormais que la ceinture WBC des lourds à Alexander Usyk, propriété d'un certain Tyson Fury que l'Ukrainien a appelé à sortir de sa retraite pour unifier le titre mondial et faire flotter à nouveau le drapeau ukrainien sur le toit de la boxe.
та гучніш сурмаче гра.
Allez, on ne va pas se quitter sans un dernier coup de pagaie, direction Ganvier, au sud du Bénin, plus précisément le lac de Nokoué, qui accueille depuis hier la deuxième édition des Journées des sports nautiques. Objectif, développer, promouvoir ces disciplines, en particulier l'aviron, initier aussi la population pour pourquoi pas trouver le nouveau Privet Linkati, ce rameur né en France, mais qui, souvenez-vous, avait représenté le Bénin aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Félix Saoundé, PPIP.
Record d'affluence, record de participation. En tout cas, les populations sont sorties massivement pour encourager les sportifs, comme le témoigne ici le président du comité d'organisation, Youssouf Onichango.
L'objectif est totalement atteint, au-delà même de ce qu'on a espéré. Ceux qui ont estimé le nombre de participants l'ont estimé à entre 15 000 et 20 000. En dehors de la phase protocolaire de lancement, nous avons eu une petite course d'exhibition d'aviron, notre discipline phare. Nous avons eu la course traditionnelle de pirogue qui mobilise vraiment les gens avec les dames.
Angelo Awandino, chargé à l'organisation de l'association Ganvier Sport Nautique, va d'abord nous présenter cette cité appelée la Venise d'Afrique.
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, Ganvier apparaît comme une cité pittoresque où il n'y a pas d'arbres ni d'immeubles, mais seulement des maisons construites sur pilotis. C'est un site touristique qui enregistre en moyenne plus d'une centaine de visiteurs européens, américains et africains par jour, surtout pendant les vacances. Et au moins la moitié de ce nombre les autres jours. Et ce village possède un certain nombre d'atouts. Et surtout, une infrastructure naturelle qu'est le lac Nokoué, qui facilite d'ailleurs la pratique d'aviron.
Quel est l'objectif visé par l'association Ganvier Sport Nautique en organisant ces journées? Aurel Azankpo, un des principaux organisateurs de l'événement, nous répond.
C'était pour nous l'occasion d'organiser ces activités pour accompagner cette fédération à donner plus de visibilité à tous les sports nautiques en général et à l'aviron et aux courses de pirogue en particulier. Donc c'était pour nous l'occasion d'initier des activités à travers notre association. L'association Ganvier Sport Nautique affiliée à cette fédération pour renforcer et accompagner les actions de la fédération.
Pendant cette période, les rameurs béninois profiteront de l'opportunité pour se forger des muscles plus solides en vue des prochaines compétitions. Le président de la Fédération béninoise d'aviron ne s'en cache pas, David Badamassi.
L'organisation de cette journée est une très bonne chose. Nous avons des difficultés au niveau du matériel pour la promotion et le développement de l'aviron sur toute l'étendue du territoire national. Avec le temps, ça va s'arranger, j'en suis persuadé, et ces gens d'initiative peuvent amener les décideurs à nous aider à acquérir assez de matériel pour développer l'aviron dans tout le Bénin. La fédération a été mise sur les fonds baptismaux en 2014. Nous avons aussi participé au championnat d'Afrique. Nous avons eu des médailles à ce niveau, à le truchement de notre capitaine. Et de l'autre côté, il a été qualifié aussi en 2019 pour les Jeux Olympiques au Japon. Nous nous préparons actuellement pour les championnats d'Afrique.
Les championnats nationaux sont prévus au mois de septembre prochain et permettront de sélectionner les meilleurs pour le championnat d'Afrique en Égypte en décembre prochain. Félix Assondé, PPRP, Cotonou, RFI.
Et elle aussi aura longtemps ramé, mais elle retrouve enfin son niveau. La joueuse de tennis française Caroline Garcia a remporté ce soir le Masters Mills de Cincinnati aux États-Unis. Victoire sur la Tchèque Kvitova, c'est de bon augure avant l'US Open. Chapeau à elle, chapeau aussi à Fabrice Viollet, impeccable ce soir encore à la réalisation. Merci à vous aussi d'être fidèle au poste. Restez sur RFI, le sport revient très vite, c'est promis. Bye bye. En